Louez et remerciez le Seigneur de ce que nous avons cette certitude et cette assurance dans notre cœur parce que Dieu a donné la promesse, nous pouvons aussi nous abandonner à elle. Si c'était Mohamed qui l'avait donné ou bien quelqu'un, Mahomet, alors nous pourrions nous laisser enterrer avec lui. Mais puisque c'est Dieu qui a fait la promesse, qui a donné la promesse, nous pouvons nous reposer en elle et savoir que le jour arrive. Rien n'est plus sûr que le retour du Seigneur. Rien n'est plus sûr que ceux qui l'attendent et tel qu'il est écrit dans Timothée, ceux qui auront aimé son avènement. Il y a des gens, il y a des personnes, des hommes qui aiment son avènement. Pas seulement lui, l'aimer lui, mais ils désirent être rassemblés avec lui, réunis avec lui. De tels hommes, nous devons devenir. Si cela n'est pas encore ainsi, alors il faut que très rapidement, cela ait lieu pour que cela devienne comme ça avec nous. Vous connaissez tous la parole de Timothée dans laquelle Paul dit que le Seigneur désormais, en ce jour-là, donnera la couronne de justice, mais pas seulement à lui, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Qui de nous peut dire, qui peut de nous dire ce soir que ce n'est pas seulement que nous aimons le Seigneur, mais que nous aimons son avènement. Que son avènement a quelque chose à nous signifie quelque chose. Nous avons été saisis dans notre cœur. Il était écrit dans 2 Timothée 4, à partir du verset 8. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Ça, ce sont des hommes qui aussi sont prêts, pas seulement aimer son avènement, mais être prêts pour son avènement, qui de tout leur cœur, avec une joie profonde, attendent son retour, étant prêts. Et peut-être que extérieurement, nous pouvons passer par des troubles et soupirer. Et c'est ainsi qu'encore plus profondément, nous serons liés avec Dieu. Plus nous sommes détachés de la terre et plus profondément nous serons liés et unis avec Dieu. Celui qui terrestrement a encore toutes ses racines ici fermement sur terre, ça veut dire que spirituellement il n'en a pas. Il n'a même pas de racines. Mais si terrestrement nous n'avons plus de racines sur cette terre, alors nos racines pourront être affirmé en Dieu. Quel privilège. J'ai aujourd'hui apporté avec moi une prédication de Frère Branham comme titre « Un prisonnier de Jésus-Christ ». Et j'ai seulement lu quelques pages, elles ont déjà eu beaucoup de choses à me dire. Avant de lire plusieurs passages, j'aurais bien, de cette brochure, donc j'aurais bien voulu parler avec quelqu'un qui était déjà en captivité. C'est toujours facile dans la théorie de philosopher. Aussi en ce qui concerne les choses de la foi. Mais la réalité des choses, personne ne le sait si ce n'est qu'il est passé par là. Si ce n'est qu'ils sont passés par là. Et nous avons entendu parler de la captivité russe, la captivité chinoise, comment les choses ont été pour les gens, par exemple la captivité en Allemagne, etc. Mais quand, n'est-ce pas, on rencontre ceux qui ont vécu ces choses, qui vraiment ont été prisonniers et tout droit leur ont été ôté, qui étaient prisonniers. Moi, j'ai rencontré des prisonniers, j'ai vu des prisonniers. J'ai vu des prisonniers russes, des prisonniers, ils étaient donc dans une clôture, il y avait en haut un fil barbelé, des fils barbelés et en bas des fils de fer normaux. Mais ces hommes n'avaient plus de droit. Tout droit leur a été ôté. Ils étaient sur une terre étrangère. Et avec eux, on pouvait faire ce qu'on voulait. Le vainqueur, donc, dirigeait leur vie. Si nous sommes devenus des prisonniers du Seigneur et que il nous a vaincus et il a vaincu notre vie, alors ça veut dire que c'est lui qui dirige toute notre vie. Alors c'est seulement comme ça que nous sommes prisonniers de Jésus-Christ. Pas si nous sommes libres et faisons de la philosophie cela sur être prisonnier de Jésus-Christ tout en conduisant notre propre vie, mais seulement si vraiment toutes ces choses sont devenues dans notre vie une réalité divine. C'est seulement après que notre témoignage est en accord avec la parole de Dieu. Et aussi cette pensée ici que Paul exprime, que le Seigneur, le juste juge, m'accordera la couronne de justice qui m'est réservée. Mais pas seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Pas seulement aux apôtres et aux prophètes. Pas seulement eux seront couronnés, pas seulement les hommes de Dieu. Mais tous ceux qui ont cru au témoignage de ces hommes de Dieu. Et ils sont classés, nous connaissons cette écriture et l'instruction du Seigneur, la parole du Seigneur, celui qui accepte un prophète, reçoit un prophète, parce qu'il est un prophète, en qualité de prophète, il recevra le salaire d'un prophète. La récompense. On n'a pas besoin d'être prophète et apôtre pour être récompensé. Mais on doit reconnaître devant Dieu que Dieu a envoyé des apôtres et des prophètes. Et on doit accepter ou recevoir le message qu'ils ont apporté et de tout le cœur aimer le Seigneur qui les a envoyés et attendre son avènement. Il n'y en a pas beaucoup qui le font, qui, dans tout ce que le Seigneur demande, sont prêts à mettre ces choses en pratique. Mais nous sommes en chemin vers cela. Le frère Schmitt a lu la parole prêchée de chaque verset, chaque phrase, chaque pensée est précieuse. Mais ce qui m'a touché, c'est ce verset, particulièrement le verset 18. 2 Pierre 1, 18. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Ça n'a pas seulement été ainsi que le Seigneur leur disait quelque chose, mais ils ont vu, ils ont entendu, ils étaient présents alors que Dieu faisait des choses, faisait quelque chose. Aujourd'hui, nous vivons avec le Seigneur. Et si nous vivons avec lui, marchant avec lui, si sa parole s'adresse à nous et si vraiment nous sommes dans le royaume de Dieu, alors aujourd'hui nous devons être témoins de ce que Dieu fait aujourd'hui. Pas de ce qui s'est passé dans les âges passés. Ça, ce sont d'autres qui l'ont vu, qui l'ont entendu. Mais nous vivons aujourd'hui. Nous devons aujourd'hui entendre, écouter ce que l'Esprit aujourd'hui dit. Et nous devons aussi expérimenter et recevoir ces choses personnellement. Pour moi, cela a une grande importance, une grande valeur. Pas seulement être prédicateur de la parole de Dieu, mais la présence de Dieu, la manifestation de Dieu, la parole de Dieu, la gloire de Dieu, d'être présent, de voir, d'entendre et de vivre dans son époque pendant que Dieu sur terre se manifeste et se révèle. Alors, cette pensée est ajoutée à cela. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique que nous possédons. Les deux vont ensemble. Celui qui possède la parole prophétique, il sera en relation avec Dieu qu'il a révélé et qu'il a prononcé. Si je parle avec vous, alors j'ai relation, j'ai communion avec vous. Alors il y a une relation qui existe. Si Dieu parle avec nous, alors il a communion avec nous. Alors il y a une relation qui existe. Et c'est de cette relation-là avec Dieu que, n'est-ce pas, il nous parle et c'est de ça que sortent toutes les expériences que nous pouvons avoir avec lui. Dans cette prédication, ou bien de cette prédication, frère Branham donne un exemple. Et je vais tout de suite le lire. Cela m'a beaucoup touché le cœur aussi parce que ici, il est parlé de ce que la gloire de Dieu est descendue. Le texte de cette prédication est dans Philémon. Dans Philémon, c'est après l'épître de Tite. Seulement un seul chapitre. Ici, il est écrit dans Philémon, chapitre 1, Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre. Ici, nous avons cette pensée que j'ai déjà exprimée. Paul, prisonnier de Jésus-Christ. Il a été pris captif sous l'obéissance de la volonté de Dieu, appelé à sortir, arraché de tout ce qu'il savait auparavant, de ce qu'il avait reçu comme instruction et de tout ce qu'il avait l'intention de faire. Il a été introduit dans la révélation de Dieu, dans la volonté de Dieu, et c'est ainsi qu'il est devenu un prisonnier de Jésus-Christ. Le Seigneur qui l'avait racheté, qui l'avait appelé, qui l'avait placé dans le ministère, établi dans le ministère, devait maintenant être seul celui qui dirige sa vie et qui décide pour lui et qui le conduit. Ici au verset 4, il dit, « Je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières. Parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ton amour pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie, le verset 7, et de consolation au sujet de ton amour. Car par toi, frère, le cœur des saints a été rafraîchi. En allemand, rafraîchi. Un jeune homme, pas un grand-père, pas un homme avec beaucoup d'expérience de la vie, mais un jeune homme. Consacre sa vie à Dieu. Et de ce jeune homme, déjà, il peut être tout de suite dit, comme tel que nous l'avons lu jusqu'à maintenant, que même Paul est tranquillisé et le cœur des saints par ce que le Seigneur, dans ce jeune homme, pouvait produire et par lui produire. Qu'est-ce que Dieu veut aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu cherche aujourd'hui? Il cherche des jeunes hommes, des jeunes femmes, Nous tous qui sommes ici, et la plupart de nous, ont presque vécu toute leur vie. Donc le Seigneur veut nous encourager de vivre le reste de notre vie pour lui, de devenir son prisonnier, sa prisonnière. Tout le reste de notre vie, tout le long de notre vie. Je l'ai déjà dit, j'ai eu un grand privilège dans ma vie de vivre la guerre et aussi la captivité. J'ai vu comment est-ce qu'un général à 4 étoiles a levé ses mains. J'ai vu. Il s'est livré. J'ai vu ce que ça veut dire. Que de se livrer. Il s'agissait plus de se faire saluer. Mais rester là. C'est comme ça qu'on est emporté dans la captivité avec les mains élevées. Et on va là où on ne veut pas aller. Nous tous, nous devons apprendre et comprendre ce que cela veut dire d'être rendu captif. Et que, comme Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis. Maintenant, c'est Christ qui vit en moi. Si nous ne pouvons encore vivre, il ne peut pas, il pourra pas vivre. Et si lui, il vit, nous ne pouvons plus vivre. Ou alors, nous marchons selon nos propres pensées et notre propre volonté. Ou alors, nous sommes prêts à faire la volonté de Dieu pour qu'il puisse vivre sa vie par nous ici. On peut pas, y a pas de mélange. On ne peut pas, comme ça, être en train de faire de la philosophie sur toutes ces choses. Ça ne nous amène pas au but. Ça ne nous amènera pas au but. Seulement si ces choses sont devenues une réalité, peuvent devenir une réalité en nous. Oui, une grande joie. Et une grande consolation au sujet de ton amour. Car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé, en allemand, rafraîchi. Ça, je le souhaite à tous mes jeunes frères de tout mon cœur. Que ce témoignage-là vous soit, puisse vous être donné. Dernières années, on pouvait aussi le dire, oh, par un témoignage, il a rafraîchi nos cœurs. Que on puisse vous le dire, nous avons été bénis. Le jeune frère a rendu un témoignage. Nous avons été fortifiés dans la foi par le témoignage de ce jeune frère. Donc, lisons quelques passages de cette prédication qui seront sûrement précieux pour nous. Nous reflectons une lumière qui vient de quelque part. Si vous êtes chrétien, cela est votre ombre et qui fait que prouver qu'il y a une vie qui existe où vous ne mourriez, où vous ne mourrez plus. Car cette vie a de la mort en elle, ici. Cette vie terrestre en elle a la mort depuis le premier souffle de vie. Parce qu'il a été donné à l'homme de mourir après le jugement. Hébreux 9, verset 27. Cette vie terrestre a la mort en elle. Mais le Seigneur est venu dans cette vie terrestre pour ôter la puissance de la mort, pour ôter l'aiguillon de la mort de cette vie. Car Dieu nous a accordé la vie éternelle. Et c'est en cela qu'il n'y a plus de mort dans cette vie éternelle-là, que le nom du Seigneur soit loué. Et pour cela, tout a été réglé et tout est terminé. Dans la vie de Dieu, dans la vie divine, il n'y a plus de mort. Ensuite, citation. Vous voyez, c'est une ombre. Car vous êtes des créatures agiles, avec des capacités de voir, de penser, de parler, de vous déplacer. Vous avez 5 sens du corps. Mais malgré tout, vous savez que vous devez mourir. Il y a tellement de chagrin vous savez que cela ne peut être qu'un... vous savez qu'il ne peut y avoir qu'un seul reflet. Parce que la vie et la mort, ils sont mêlés. Oui, dans ce corps, dans cette vie terrestre, oui. Mais alors, plus maintenant. Ici, il y a de la douleur, il y a des souffrances, il y a des larmes, il y a des pleurs, il y a des chagrins, il y a des difficultés, et la fin, et ensuite la mort. Il n'y a pas longtemps, j'ai souvent pensé de la vie, à la vie, à la mort. Et c'est vraiment vrai. Celui qui vivait sans Dieu, sa vie ne valait pas la peine d'être vécue. Qu'est-ce que le monde a à offrir, même vu terrestrement, avec tout ce qui pourrait être agréable? Un arrière-goût amer persiste. Un arrière-goût amer. Ici, il est dit, si nous sommes devenus lumière, si notre vie est en accord avec la lumière du jour dans lequel on vit, c'est à ce moment-là seulement que nous marchons dans la lumière. Pas seulement que la lumière est apparue, mais son éclat nous a atteints pour que nous soyons apportés en accord avec la parole qui est déterminée pour ce jour et que nous puissions marcher en accord avec cette parole. C'est à ce moment-là que nous sommes enfants du jour, comme c'est écrit dans 1 Thessaloniciens 5, et que nous ne pouvons plus nous heurter parce que, en raison de la parole, nous pouvons voir où nous marchons et où nous avons à aller. Ici, il est dit, aussi vrai que le Saint-Esprit reflète la lumière et la vie, l'obscurité, la mort reflète l'obscurité devant Dieu. Donc, le Saint-Esprit reflète la lumière et la vie. La mort reflète l'obscurité. Et ici, Frère Branham dit, le mauvais esprit est obscur. C'est ainsi. Comme si votre vie est couverte d'obscurité. Le mauvais esprit est obscur. Et nous savons que il fait tout dans l'obscurité parce que lui-même, il est obscur. Il est ténèbre. Dieu est lumière. Et celui qui le suit ne restera pas, ne demeurera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. Pas seulement en parole. Combien d'évangélistes et de prédicateurs ont prêché cette parole? Et en eux, cette parole n'a pas trouvé son accomplissement. Dieu veut que chaque parole puisse trouver en nous son accomplissement. Maintenant, suit quelque chose d'une expérience qui m'a beaucoup touché. À peu près, il y a une semaine d'ici, nous avions envoyé dans le monde entier des bandes magnétiques, les 7 sceaux, jusqu'à l'intérieur de l'île, la Jamaïque, où je suis déjà allé en mission, là-bas. Là-bas, derrière la montagne, tout est primitif. Parfois, les indigènes, là-bas, ont un vieux appareil pour bandes magnétiques qu'on doit encore tourner manuellement. Vous connaissez cela. Avec une manivelle qu'on doit donc faire. Et ces gens avaient un vieux appareil à bande magnétique avec une batterie de 6 volts et tous étaient assis ensemble, rassemblés, tel que nous le sommes ici ce soir. Et écoutaient ces sceaux, ces prédications sur les sceaux. C'était ainsi. Pendant que je parlais, ils ont observé comment est-ce que la même colonne de feu est entrée dans la pièce où ils se trouvaient et est allé là où l'appareil à bande magnétique se tenait et est resté suspendu sur l'appareil. Ils sont allés chercher un appareil photo et ils ont pris une photo exactement la, la même colonne de feu était suspendue là sur l'appareil. Nous allons la laisser agrandir et nous allons là-bas la placer, l'exposer pour que vous puissiez voir cette photo. J'ai dû penser à ça. Que ces hommes simples croient de tout leur cœur. Et de tout leur cœur, ils sont liés avec Dieu. Que d'une telle manière, il peut descendre dans leur réunion et visiblement se manifester parmi eux, rendre témoignage de sa présence. Ici, nous écoutons les choses puissantes. Mais nous ne sommes pas saisis par ces choses que nous écoutons. Nous ne sommes pas touchés. Nous ne sommes pas emportés par elles, par ces choses. Nous écoutons souvent les prédications sans que Dieu ait la possibilité de répéter tout ce qu'il a fait autrefois. Pas que ces gens priaient pour ça. Cela a eu lieu parce qu'ils étaient rassemblés dans la crainte devant Dieu. Et peut-être même qu'une vieille grand-mère a dit, Seigneur, tu peux aussi parmi nous descendre comme tu le faisais alors que les sept sceaux avaient été prêchés autrefois. Qu'est-ce qu'on sait? Et déjà, le Seigneur a exaucé le souhait et la prière de ces gens. Cela, la chose la plus convaincante à cet exposé consiste à ce que un appareil photo a été pris et qu'une photo a été prise qui ensuite devrait être suspendue pour que vous puissiez voir. Pas que nous cherchons de telles choses. Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut et pas ce que nous voulons. Ça, nous le savons tous. Nous sommes sortis des chaussures d'enfants. Quoique quand je pense à Hébreux 6, où Paul dit que nous ne sommes plus des enfants qui boivent encore du lait, mais nous devrions consommer de la nourriture solide. Mais parfois, nous buvons même le lait de travers. Alors, comment est-ce que nous pourrons consommer de la nourriture solide? Mais ici, j'ai remarqué que le peuple d'Israël, en fait, avait un voyage merveilleux jusqu'au point où il fallait traverser et entrer dans le pays de la promesse. Auparavant, Dieu avait frayé tous les chemins, aplani tout, et s'ils n'avaient pas été dans l'incrédulité, ils auraient atteint le but sans problème. Mais quand le temps était arrivé où ils devaient justement passer au pays, dans le pays, les dix espions ont carrément exprimé qu'ils ne croient pas et ils ont emporté tous les autres et les ont ravis de nouveau dans l'incrédulité. Mais il y en avait deux qui étaient prêts à croire malgré tout. Et vous voyez, si on a compris ce que Dieu veut, alors nous devons nous placer dans le devoir que nous avons à remplir. Parfois, nous tirons à côté, mais nous abandonnons pas. Nous continuons. Et chacun de nous qui a joué au football, il sait que chaque attaquant tire plus de coups à côté du but que dans le but. Mais les coups, les tirs qui sont allés à côté du but n'ont jamais été comptés. Jamais, je n'ai jamais entendu une seule personne qui aurait compté tous les coups, n'est-ce pas, qui sont allés à côté du but. Aucun homme est aussi idiot sur terre. Tous ceux qui regardent un jeu de football ne comptent pas les tirs qui passent à côté du but. Mais ils louent, ils exaltent, ils crient de joie quand un but est tiré. Et Alors ils ont le droit de dire, ici, nous avons eu 3 buts aujourd'hui. Et vous savez ce qui s'est passé? Et ça, nous l'avons tous vécu, parce que j'avais toujours bien couru depuis ma jeunesse, n'est-ce pas? J'avais même souvent ce devoir-là de courir. Mais quand vraiment on donne tout son effort, cette personne-là, justement, parfois doit rester assise sur le banc. Et on siffle sur elle, sur cette personne. Mais celui qui est parmi les spectateurs, jamais il doit être allé sur le banc et rester assis. Ou bien alors, on siffle sur lui. On ne siffle pas sur lui, sur aucun spectateur. Ils peuvent tous regarder. Il n'y a aucune pénalité, etc. sur un spectateur. Pourquoi est-ce que j'ai dit cela? Pour vous rappeler un sport? Non, sûrement pas. Nous sommes dans une bataille, dans un combat, une bataille spirituelle. Et si parfois, aux attaques du diable, il y a des tirs qui passent à côté de nous, nous ne les comptons pas parce que Dieu ne les compte pas non plus. Dieu compte seulement les choses qui sont un but et qui visent la cible. Et on dit que l'exercice fait le maître. Et vous savez comment c'est bien après l'exercice. Mais nous sommes justement dans cette course. Et nous ne sommes pas prêts à abandonner, mais à continuer à courir. Avec Dieu, nous ne pouvons rien faire d'autre que de nous mettre à la disposition du Seigneur et de ce grand devoir que nous avons. Ici, il est dit, continuons à lire la citation. Nous sommes reconnaissants pour la grâce de Dieu qui nous a été accordée dans ces jours, dans sa présence. Nous sommes reconnaissants pour beaucoup de choses. Oui, pour tout ce qui vient de Dieu. Nous sommes reconnaissants. C'est seulement ça qui compte. Tout le reste, n'est-ce pas, ne sera pas compté. Il ne compte pas. Le Seigneur, une fois, a dit, les enfants de ce monde sont plus sages que les enfants du royaume. Et ça, c'est vraiment ainsi. Mais il y a aussi une sagesse divine. Et nous devons justement la recevoir. Nous devons être présents quand Dieu la distribue. Ici, il est dit, encore, citation, les réunions de prière les mercredis soirs sont seulement une réunion courte dans laquelle nous venons seulement pour prier, tel que nous l'avons fait et pour avoir communion les uns avec les autres. Parfois, je crois que l'une des plus grandes choses que je constate dans ce temps, c'est le manque en sincérité dans ce que nous croyons. Si Dieu, aujourd'hui, avait fait du temps de Wesley ce qu'il fait aujourd'hui, qu'est-ce qui se serait passé? Et ensuite, ça continue. S'il avait fait du temps de Martin Luther, etc., etc. Et les comparaisons sont faites dans cette citation, dans cette brochure. Dieu le Seigneur, dans la colonne de feu, est descendu dans notre génération. De manière contraignante, il a parlé avec nous et il nous a révélé les mystères de sa parole et de sa volonté. Et malgré tout, il y a assez de personnes qui passent à côté de ces choses et qui continuent à croire ce qu'ils ont toujours cru jusqu'à maintenant. Pourquoi est-ce que la gloire de Dieu est descendue là où ils écoutaient la bonne magnétique en Jamaïque? C'est parce que des gens dans la crainte de Dieu et dans le tremblement, pas dans la peur, mais avec crainte, dans la présence de Dieu, du Seigneur, étaient rassemblés dans sa présence et croyaient sincèrement que là où 2 ou 3 au nom du Seigneur sont réunis, ils sont un, là, il est parmi eux. Ici, Paul continue à écrire et dire, je voudrais du premier verset prendre 2 mots. Paul, prisonnier de Jésus-Christ. Citation. Ce que, si le Seigneur le veut, je veux prendre comme texte ce soir, c'est un prisonnier. Laissez-moi lire entièrement tout ce paragraphe ici. Est-ce que vous pouvez vous imaginer que Paul s'est considéré comme prisonnier, un homme né dans la liberté, rempli de Saint-Esprit, et qui ici se désigne comme étant prisonnier. Nous constatons que il écrit aux Corinthiens et il dit Paul, un apôtre de Jésus-Christ. Une autre fois, Paul, un esclave de Jésus-Christ. Un serviteur de Jésus-Christ, un esclave, par la volonté de Dieu. Alors qu'il s'adresse à Timothée et aux autres, dans son écrit à Philémon, ici il dit Paul, prisonnier de Jésus-Christ. En ce qui concerne Paul, apôtre, un soir je parlerai aussi, et Paul en tant que serviteur et esclave, je vais aussi en parler. Mais ici, je veux parler de Paul en tant que prisonnier. C'est de ça que je parle ce soir. Car j'aurais besoin d'heures pour prendre l'un de ces sujets en détail. Ce soir, je parle de cela, Paul un prisonnier. Bon, pas seulement Paul, mais moi, frère Franck, et toi, frère, et toi, sœur, nous tous, nous devons aujourd'hui comprendre que, à la place de Paul, nous devons insérer nos noms. À quoi est-ce que ça nous sert? Que Paul était un serviteur de Dieu, un prisonnier de Jésus-Christ, et qu'il était prêt à rencontrer le Seigneur, à aller à sa rencontre, aimait son avènement, était conduit par cet esprit, rempli de cet esprit, conduit par cet esprit dans toute la vérité. Si toutes ces choses étaient pour nous seulement qu'un cours auquel on prend part, sans un enseignement, sans que nos noms puissent être insérés dans ces choses, pour que aussi les choses qui nous ont été révélées par la parole deviennent une réalité en nous. Combien de nous l'attendent vraiment, que ces choses deviennent une réalité? Combien ne prient pas seulement, mais s'attendent à ce que cela arrive? Combien sont dans une sainte insatisfaction, que cela ne pouvait pas encore arriver? Nous ne voulons pas passer à un mécontentement. Mais malgré tout, je pense que une insatisfaction sainte et en bonne santé, que Dieu n'a pas encore reçu ce qui lui revient de plein droit, est à sa place. Si nous puissions dire, Seigneur, nous ne pouvons plus rien faire d'autre, si ce n'est, nous ne faisons rien, si ce n'est que en tant que le ressuscité, en tant que le même, hier, aujourd'hui et éternellement, tu te révèles, tu prouves ta présence parmi nous. Si vraiment c'est un ardent désir, cela aura lieu, cela doit avoir lieu. Maintenant arrive. Ne jugez pas votre vie selon la puissance que vous avez pour faire des miracles. Et nous ne nous jugeons pas seulement aussi selon la connaissance que nous avons de la parole. Combien de connaissances nous avons de la parole? Mais jugez-vous seulement en entrant en vous-même pour faire un inventaire de votre vie, pour savoir quelle sorte de fruits porte la vie que vous menez actuellement, maintenant. C'est car c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Pas à leurs dons et à leurs devoirs, pas à ce que nous pouvons produire, ou bien apporter de nous-mêmes, mais en ce qui, mais par ce qui peut naître et croître comme fruit de la vie spirituelle que Dieu nous a donnée. Prenons le temps et faisons cet inventaire. Je dois aussi le faire. Quel fruit l'Esprit de Dieu a pu produire en nous? Quels sont les fruits? Dans Galates 5, les 9 fruits de l'Esprit sont clairement énumérés. Et la question est la suivante. Est-ce que ces fruits-là ont pu croître en nous? Est-ce qu'ils ont pu sortir de nous? Ou bien est-ce que rien n'a germé? Il faut que dans notre vie, cela germe. Si cela ne germe pas, ça ne peut pas croître. Et ce qui ne croit pas ne peut pas non plus mûrir. Si nous savons que dans le temps de la moisson, tout doit être mûr avant d'être récolté, alors nous nous posons la question, n'est-ce pas? Déjà maintenant et dans le tout le sérieux, est-ce que les choses divines ont germé? Encore moins, est-ce qu'ils ont mûri? On peut toujours se poser la question. Mais sûrement à la fin, pas déjà maintenant, quand il s'agit de la mûre, est-ce que c'est mûr ou pas? D'abord, il faut qu'une semence soit semée. Et cette semence ne peut pas être semée sur un champ épineux, sur un sol pierreux, ou alors sur les chemins où la semence sera piétinée. Mais sur le bon sol du cœur. Il faut que la semence soit semée. Et ensuite, il faut qu'elle germe. Mais ensuite, les pierres et les épines et tout ce qui pourrait empêcher le déroulement normal, naturel, tout doit être ôté. Le Seigneur donne cet exemple-là dans Matthieu 13, que même les soucis de la vie peuvent venir et pour couvrir cette semence, pour étouffer cette semence. Et n'avons-nous pas tous fait cette constatation? Si nous parlons des choses que Dieu a faites et que nous nous en réjouissons et avons des pensées positives, nous sommes aussi en bonne santé. Mais si nous nous occupons de choses négatives et toutes sortes de choses négatives, alors elles nous rendront malades et elles nous attristent et découragent, n'est-ce pas, oui ou non? N'êtes-vous pas encore tous des hommes? Bien sûr. Nous avons tous, en tant qu'hommes, les mêmes, nous ressentons tous les mêmes choses. Et nous devons maintenant reconnaître ce qui nous nuit et ce qui nous aide. Ce qui nous retient et ce qui nous donne de l'élan. Ce qui nous sépare de Dieu et ce qui nous permet de continuer à marcher avec lui. Nous devons être assez réels et nous le dire et nous dire aussi les uns les autres et se laisser dire cela d'un autre. Ou bien, que tout ce qui nous retient et nous paralyse et ne nous fait pas dans la foi sur le Seigneur ne peut pas venir de lui parce que ce qui vient de lui ramène à lui et nous édifie et nous fortifie dans la foi. Et dans notre vie spirituelle. Tout ce qui nous retient, nous paralyse, ne peut pas venir de Dieu. Donc, nous devons faire un inventaire de notre vie pour voir quelle sorte de fruit dans notre vie sort de notre vie. Le Seigneur veut que ce fruit-là réellement bientôt soit visible. Ici, il est dit encore, citation, comme il n'y a pas longtemps, dans une réunion des hommes d'affaires chrétiens à Phoenix, en Arizona. J'ai parlé du reflet de Jésus. Car que la vie chrétienne reflète. Donc notre Seigneur, la vie d'un chrétien reflète Christ. Donc la vie d'un chrétien reflète Christ. Donc notre Seigneur doit être se refléter dans notre vie, par notre vie. Et là, aucune théorie sert à quelque chose, non plus aucun bon conseil ou bien proposition. Là, il s'agit de reconnaître la volonté de Dieu parfaite et être prêt à la faire. Ici encore, citation. Alors là aussi, nous nous posons la question. Je me suis dit, nous aussi nous reflétons quelque chose. Notre vie est retransmise. Si nous avions vécu dans le temps de Noé, de quel côté est-ce que nous nous serions tenus? De quel côté nous serions tenus dans les jours dans lesquels Noé vivait? Et ensuite, il cite ici plusieurs choses dans la brochure. Et il continue à parler de, dans ce contexte des choses. De quel côté nous nous serions tenus? Dans les jours de Moïse, Abraham et tous ces prophètes, jusqu'à même Jean-Baptiste, notre Seigneur lui-même, les apôtres, et jusqu'à dans notre temps. Quelle est la chose particulière dans le message divin? Est-ce que c'est un enseignement? Est-ce que c'est une connaissance? Non. La chose particulière dans le message divin dans ces jours, parmi le peuple de Dieu, consiste à ce que le Seigneur nous a mis à jour dans les choses de son royaume et selon les promesses de sa parole, il nous a montré ce qui doit arriver dans ces jours. Et nous nous trouvons au milieu de l'accomplissement de toutes ces choses que Dieu a promises et qui fait maintenant. La différence entre ceux qui suivent le Seigneur et ceux qui ne le suivent pas consiste simplement en ce que les uns ne sont pas prêts à continuer à marcher avec le Seigneur selon la révélation de sa parole et de sa volonté pour être en accord justement avec sa parole et avec sa volonté jusqu'à la fin. Aujourd'hui, ça ne suffit pas d'être en accord avec ce qui s'est passé il y a 40 ans, 50 ans, 100 ans en arrière. Mais il s'agit d'être en accord avec ce que Dieu fait aujourd'hui. Avec cela, nous devons être en accord. Et pour devenir assez clair, il y en a assez qui se réfèrent à Frère Branham. Et il marche dans toutes sortes de directions, mais seulement pas dans celle dans laquelle il a marché. Et il dit toutes sortes de choses, mais pas seulement ce que lui, il a dit. Et se référant à lui. Et je l'ai raconté une fois à Singapour. Une fois, j'ai eu un entretien avec un homme assez égocentrique qui se prenait pour quelque chose de particulier. Je ne sais pas jusqu'à aujourd'hui pourquoi. Mais c'était ainsi. Et il disait, Frère Franck, je vais écrire sur ce sujet. Éditer une brochure. J'ai dit, mais frère, qu'est-ce que tu veux écrire? Oui, je veux écrire et je veux exposer la chose. J'ai dit, mais est-ce que tu ne crois pas que Frère Branham a déjà de manière claire exposé la chose? Il dit, non, il y a trop d'incompréhension. Et tout cela doit être corrigé. Et pour finir, j'ai même reçu sa brochure. Donc, et je l'ai lu. Je souris maintenant, mais c'était à pleurer. C'est à pleurer. Si c'était moi ou bien quelqu'un d'autre, que nous voulions nous asseoir pour écrire sur un sujet et philosopher sur un sujet sur lequel Dieu déjà a accordé la vérité et la clarté et que cela reste seulement caché à ceux qui dans la dureté de leur cœur, restent attachés à leur credo et ne sont pas prêts à se laisser apporter à jour dans le royaume de Dieu. Il y a eu des choses offensives, blessantes dans son exposé, de manière que ce n'est même pas possible à quelqu'un de répéter ces choses. Mais, qu'est-ce que je voulais dire à cela, par cela? Des gens prêchent le message, mais tel que le prophète l'a rapporté, il n'était pas correct. Eux, ils doivent donc corriger les choses. Non, avec cela, personne ne pourra subsister devant Dieu. Dieu a justement envoyé le prophète, c'est pour te corriger, toi et moi et chacun qui veut subsister devant Dieu, oui ou non? Est-ce que nous voulons corriger Dieu? Est-ce que nous voulons corriger son prophète? Ou bien est-ce que nous sommes là pour être corrigés par Dieu, par sa parole révélée et par le Saint-Esprit, être conduit dans toute la vérité? Ici, il est écrit, de quel côté est-ce que vous seriez tenu? Alors, ne dites pas, point, 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 votre vie, la vie que je vis maintenant, reflète maintenant exactement ce que vous auriez fait autrefois. Car vous êtes encore en possession du même esprit. Si maintenant vous vous tenez de leur côté, vous l'auriez fait aussi autrefois. Car le même esprit qui aujourd'hui est en vous maintenant, actuellement, est en vous, était dans les gens autrefois. Ça, nous le croyons de tout notre cœur. Tous ceux dans lesquels vraiment le Saint-Esprit était, se tenaient du côté de Dieu et par cela au côté de ceux par lesquels la parole de Dieu avait été annoncée dans l'âge. Et en cela, ils ne se tenaient pas du côté d'un homme. Au côté d'un homme, ça avait seulement l'impression. Mais en fait, ils se tenaient du côté de Dieu qui parlait qui avait seulement parlé par la bouche d'un homme. Ensuite, il est dit, citation. Donc, le même esprit qui était sur Élie est venu sur Élisée. Qu'est-ce que c'était? L'homme croyait de tout son cœur que cet homme Élie était envoyé de Dieu. Et plus tard, même une double portion est venue sur lui. Pensez maintenant à la différence entre Élisée et Géasi. Alors que Naaman, qui était venu de Damas pour parler avec Élisée, c'était Élisée, oui, oui, bien sûr, c'était Élisée, oui, sûrement, c'était Élisée. Et Élisée n'est même pas sorti à lui. Si j'ai bien l'histoire dans la mémoire, il lui fit dire par un messager, va et lave-toi sept fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur et guéri de ta lèpre. Et quand cet homme a entendu cela, il s'est irrité et il a dit, quoi ce les fleuves de Damas, etc. sont mieux que toutes les eaux d'Israël. Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur là-bas, en Syrie? Et le prophète et ses serviteurs lui ont dit, mais si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Et voilà, il a fait. Et quand la septième fois il est sorti de l'eau, sa peau était comme la chair d'un jeune enfant. Il fut pur. C'est ce qui s'est écrit. Parfaitement pur. Qu'est-ce qu'il a purifié? De l'eau sale du Jourdain? Non, sûrement pas. C'est la parole du Seigneur qui avait retenti, qui était sortie. Déjà, cela a eu lieu. Mais vous savez ce qui s'est passé encore? 2 Rois 5, verset 14. Géasi a pensé en lui-même. Voici mon maître a ménagé. Cet homme, il n'a rien pris. Il n'a rien accepté de sa main. Moi, je vais le suivre et je vais dire, écoute, il y a une fête qui a lieu. Et mon maître m'envoie te dire de donner des présents pour la fête. Verset 22, et ça, c'est ce qu'il a fait. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Il revient à l'homme de Dieu. Et Élisée lui demande, où est-ce que tu étais? Ne continue pas à parler, je t'ai observé. Et Élisée lui a dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Pourquoi est-ce que tu l'as fait? Pourquoi est-ce que tu as accepté cela? Maintenant, la lèpre de Naaman est sur toi. Et il est ressorti avec une lèpre comme la neige. Et là, nous remarquons que dans le royaume de Dieu, on ne peut pas faire de business ou bien des affaires dans le royaume de Dieu. Mais il tend la main. Mais tout ce qui a lieu avec la grâce et avec et par ce par qui Dieu, que Dieu a déterminé à faire son œuvre dans l'œuvre de, dans le royaume de Dieu. Personne ne peut venir ici dans le royaume de Dieu avec l'intention de faire des affaires et des business, sinon ils vont recevoir ce qu'ils ne veulent pas recevoir. Il y a beaucoup de leçons ici dans la parole de Dieu. Ici, il est écrit, alors revenons ici à Paul. Ça a dû être quelque chose de terrible pour cet homme. Donc Paul, Saul de Tarse, qu'il persécutait exactement ce qu'il avait désiré être. Nous sommes déjà ici à Saul de Tarse, oui. Il voulait de tout son cœur servir Dieu. Il était convaincu qu'il le faisait. Et voilà ce que Dieu faisait dans son temps. Il l'a persécuté. Et c'est peut-être raison que ici l'expression est faite que ce qu'il avait l'intention de faire, c'est-à-dire servir Dieu de tout son cœur et bâtir le royaume de Dieu et faire la volonté de Dieu, c'est justement ce qu'il a détruit. C'est justement ce qu'il détruisait, ce qu'il détruisait. Et maintenant, celui-là, le tournant pour lui, le Seigneur lui a apparu dans la lumière, dans la colonne de feu. Et déjà, toute son instruction reçue par Gamaliel était terminée, était passée, et il a été enseigné par Dieu. Il est allé dans le désert de l'Arabie, il est resté là-bas à peu près trois ans et demi, et ensuite il est revenu enseigné de Dieu. Vous savez, même si cet homme, j'ai lu cette parole aujourd'hui, je pensais que ce serait bien pour une lettre circulaire. Si cet homme de Dieu, ici, dans 1 Corinthiens 14, écrit au verset 37, oui, c'est quoi, verset 14, 37, si quelqu'un croit être prophète ou spirituel, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris ici est un commandement du Seigneur. Ça ne sert à personne de dire je suis spirituel, je suis oint, j'ai des dons de l'esprit, je suis un prophète. Si quelqu'un est vraiment spirituel et que l'onction vraiment est sur lui, alors il y aura un accord avec ce que Dieu a dit par les prophètes, par les apôtres et par les sacerdotes, par la même onction du Saint-Esprit. Il ne peut pas avoir de contradiction. Et là, ça commence déjà avec le même sujet, le sujet sur la divinité. Quelqu'un peut dire, mais ça n'a pas d'importance qu'on croit comme ça ou bien comme ça. Non, justement pas. L'enseignement biblique est vrai et tout le reste est faux. On peut pas dire que c'est pas d'importance. Ça c'est vrai ou ça aussi c'est vrai. Non. Il faut que ce soit biblique exact pour que ce soit vrai. Donc l'exemple n'a pas encore bien sa place ici, mais celui qui croit en Dieu. Et que Dieu me pardonne si je tire une comparaison un peu humaine. Si vous avez une table avec trois pieds et qu'elle se tient quand même, elle ne tombe pas. Mais si vous la poussez un peu et qu'elle tombe, alors qu'est-ce qu'elle a? Vous n'avez plus rien. On ne peut pas dire, bon, c'est pas grave, trois sont devenus un. Il faut qu'on dise que le seul vrai Dieu, constitué d'une seule personne, éternel, en tant que Père, et ensuite dans le Fils, et ensuite le même Dieu, par le Saint-Esprit, s'est révélé. On ne peut pas prendre une chose sur la tête et dire, la renverser sur la tête et dire que c'est en ordre. Et on ne peut plus manger là-dessus. Sur une table à trois pieds, on ne peut pas dire que bon, c'est quand même une table, c'est pas grave. Vous ne pouvez pas manger là-dessus. Que Dieu me pardonne cet exemple. On ne peut pas prendre une table à trois pieds et dire que c'est quand même une table. On peut quand même. Non. Si elle tombe, elle va être. Alors, qu'est-ce qui se passe? Non. On peut pas dire c'est pas grave, on peut manger dessus. Non. Il y en a qui disent, mais frère Branham, c'est fait tant d'ennemis. Est-ce qu'il aurait pu éviter cela? Le jour de l'éternité aurait décidé. Non, Dieu, fallait que Dieu révèle la vérité. Il fallait que Dieu, c'est pas la lumière des ténèbres. Il fallait que cela soit révélé. Celui qui croit avec l'intelligence humaine et qui est prêt à croire de tout son cœur ce que Dieu a dit. Car il y a seulement deux choses dans ces derniers jours. Les uns sont sous l'influence du Christ et les autres sous l'influence de l'Antichrist. Et entre les deux choses, il n'y a pas une troisième position. Il y en a qui veulent être entre les deux. Hein? Danser en même temps à deux mariages. Hein? Être en même temps au ciel et puis en même temps chez le roi ici sur terre. Non, ce n'est pas possible. Notre Dieu a de manière claire parlé. Contraignant pour nous tous aujourd'hui. Celui qui n'est pas prêt à prêter l'oreille à la parole de Dieu, Dieu ne lui a pas encore ouvert l'intelligence pour les Écritures. Avec cela, Dieu ne s'est pas encore occupé avec cet homme. Cela peut encore arriver. Mais si c'est vraiment arrivé, que Dieu te rencontre, alors la révélation que tu as sera selon les Écritures, sera la révélation biblique divine qui est en accord avec tous les apôtres et les prophètes. Chaque différent sujet sera clair et accordé à chacun individuellement. Ce n'est pas possible autrement. Nous voyons ce qui se passe dans le monde. L'Antichrist ensorcelit toute l'humanité. Et il parle, il a des textes religieux, utilise des écritures qu'il utilise dans sa bouche, et comme les Saintes Écritures disent, en tant qu'ange de lumière, habillé en blanc, et tous tombent à ses pieds. Et qu'est-ce que Frère Branham a dit dans la prédication? Satan voulait être adoré, être vénéré. Il voulait s'élever. Il voulait se rendre semblable à Dieu. Et alors, il a été précipité sur terre. Et il dit, depuis lors, il voulait sur terre influencer les gens, les hommes, faire en sorte que les hommes l'adorent lui. Et il a dit, Frère Branham a dit, cela arrive dans ces derniers temps en ce que l'Antichrist se personnalise, Satan lui-même dans l'Antichrist avec un masque religieux se manifeste. Et moi, est-ce que je dois croire ce qu'il croit et tout en disant que lui, il est faux et moi, je suis vrai? Ce ne serait pas possible. Si des gens croient à la divinité telle que l'Antichrist, depuis le commencement, lui l'a enseigné et disent qu'il est faux et qu'ils sont justes, alors qu'ils croient comme lui, ils croient. S'ils baptisent comme ils baptisent et qu'ils ont la même formule comme lui, il la formule, il utilise et tous ses aides. Depuis quand est-ce que la même chose sont deux choses? C'est pas possible. Vous baptisez comme lui, vous croyez comme lui et vous dites que vous êtes dans le juste et lui il est faux. Aucune personne ne comprend cela. Et que nous puissions comprendre. Ici, il ne s'agit pas de paroles. Il ne s'agit pas de mots et d'expressions. Il ne s'agit que dans les derniers jours. Les vérités divines de la parole de Dieu, encore une fois, sont placées sur le chandelier pour être portées par l'Église. Et si une vérité manque, alors un maillon manque. Et un jour, ça ne suffira pas. Ça ne suffira plus. Alors Dieu veut avec nous aller de l'avant et nous accorder la grâce pour que nous puissions marcher, reconnaître ses voies dans ces jours et y marcher. Est-ce que Frère Branham n'aurait pas pu aller dans un chemin étroit et un chemin large avec tous les autres? Pourquoi est-ce qu'il devait entreprendre un chemin si difficile, épineux, montagneux, difficile, pierreux? Ils ont dit, mais enseigne-nous sur les dons spirituels, etc. Mais vous ne connaissez même pas encore l'ABC, votre ABC. Vous ne connaissez pas encore votre ABC. Et cela doit avoir lieu avec nous. Nous devons connaître notre ABC. Dieu doit pouvoir compter sur nous. Et nous devons de tout notre cœur croire que le Seigneur, par son serviteur et prophète, a parlé dans notre génération. Si quelqu'un pense qu'il est un prophète, qu'il soit spirituel, qu'il a des dons, qu'il a l'onction du Saint-Esprit, alors qu'il puisse accepter cette parole, reconnaître que ce qui est écrit ici vient de Dieu. Si quelqu'un prétend, dit l'homme de Dieu, qu'il est spirituel, qu'il a l'esprit, qu'il a l'onction, il doit reconnaître que ce qui est écrit ici est un commandement du Seigneur. Et autrefois, ils se sont moqués de Paul et ils ont dit, dans ses écrits, il est puissant, il est sévère, il est dur, mais dans sa présence et son discours, il est faible. Qu'est-ce que c'était? Il ne sait même pas parler. Qu'est-ce que c'était? Les gens autrefois aussi n'ont pas reconnu que Dieu avait parlé par Paul et que l'histoire du salut aussi autrefois était en train de se dérouler. Nous sommes reconnaissants au Seigneur de ce que dans ces jours, nous avons la grâce de reconnaître que Dieu amène l'histoire du salut à la fin, à sa fin, et qu'il a envoyé son serviteur le prophète pour nous ramener à la parole et à la volonté de Dieu originelle. Abandonnant tout ce qui vient de nous et que la sagesse, l'amour, la puissance de Dieu nous soit accordée et que nous soyons levés nous-mêmes. Nous rendre et dire, Seigneur, je veux être un prisonnier de Jésus-Christ. Me voici, fais avec moi ce qui te plaît. Et vous voyez, vous jeunes hommes, vous jeunes frères, prenez-vous pour vous la parole que Paul a adressée à son ami et à son compagnon d'œuvre, à Philémon. Compagnon d'œuvre, que votre témoignage et en tout ce que Dieu, les choses dans lesquelles Dieu vous utilisez, que ce soit une bénédiction pour les autres saints, pour les autres croyants. Si vous rendez un témoignage, si des personnes âgées rendent un témoignage, c'est naturel. Mais quand des jeunes hommes, des jeunes frères et sœurs rendent des témoignages, et comment est-ce qu'ils ont expérimenté le Seigneur et ce qu'ils ont reçu de lui, c'est quelque chose d'autre. C'est impressionnant de voir déjà des jeunes gens. Les vieilles personnes ont une expérience de vie, mais les jeunes aussi peuvent rendre témoignage s'ils ont fait des expériences avec le Seigneur. Moi, je consacrerai encore ma vie au Seigneur. Quand je pense, aucun jour, aucune heure, aucune occasion, toutes ces 50 années que j'ai passées, pas un seul jour, une seule heure reviendra. Tout est passé pour toujours. Oh, alors je voudrais dire, comme frère Branham, Seigneur, aide-moi, fais-moi grâce, que le reste de ma vie, je puisse vraiment l'utiliser pour toi et vivre pour l'honneur de ton nom dans ta parfaite volonté. Prisonniers de Jésus-Christ, des gens qui se sont rendus à Dieu, qui croient à Dieu et qui font confiance à Dieu. Pas des paroles religieuses, mais la réalité divine, les réalités divines dans ta vie et dans ma vie. Aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à le suivre, à lui appartenir, à lui consacrer entièrement notre vie. Et il est ici pour nous prendre entièrement captifs et nous bénir de la plénitude de sa grâce. À lui soit l'honneur pour cela. Amen. Levons-nous pour la prière. Père céleste, comme ta parole est glorieuse, merveilleuse, mais comme sérieuse, ô Dieu, elle est. Seigneur, tu nous vois tous. Tu nous connais et tu connais nos pensées et nos cœurs. Seigneur, que nous puissions vivre pour toi, être là pour toi, à ta disposition. Que nous ne puissions plus nous-mêmes puissions vivre pour nous-mêmes, mais pour toi. Parce que nous t'appartenons. Seigneur fidèle, tu as un reste. Qui se sont reniés, qui ont levé les mains et qui se sont rendus. Qui en tant que prisonniers veulent t'appartenir. Accepte-nous. Nous nous rendons en tant que tes prisonniers. Car en tant que tes prisonniers, nous sommes libres, libérés du Seigneur. Et nous pouvons nous réjouir de la liberté des enfants de Dieu. Oh Seigneur, agrée-nous. Prends-nous prisonniers, jeunes et âgés, petits et grands. Que nous sachions beaucoup, peu de choses ou rien du tout. Que nous puissions trouver grâce devant toi ce soir. Que ta gloire puisse revenir parmi nous. Restitue-nous les années passées. Fais-nous grâce à cause de ton merveilleux et de ton saint nom. À toi seul la louange, la reconnaissance pour tout dans le précieux nom et saint nom de Jésus-Christ. Amen.